Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 6 octobre 1999 à Saint-Jean-d'Arc.
Je réponds à deux questions, puis nous continuerons de voir quel est le point de départ de la philosophie réaliste. Pourquoi le primat du cogito conduit immédiatement à la séparation entre foi et philosophie? Inversement, on peut alors se poser la question: en quoi le jugement d'existence est-il nécessaire à cette coopération? Alors, je dirais, en tant que chrétien, l'encyclique du pape est nette quand il me parle de la coopération possible entre la foi et la philosophie pour la théologie. Il montre qu'il faut une philosophie sapientiale, sapientielle, qui puisse découvrir l'existence de Dieu. Or, je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu à partir du cogito. Dieu n'est pas dans le cogito, puisque vous n'avez pas d'abord d'idée de Dieu réel, vous avez une imagination, un mythe, mais vous n'avez pas d'idée vraie, métaphysique de Dieu. Alors, si, à partir du cogito, je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu, je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu à partir de la pure immanence de la vie, même de la vie de l'intelligence, c'est-à-dire du fruit de l'intelligence. C'est le réalisme de l'intelligence, ceci est, qui est le dépassement même de ce qui est la vie. Touche l'être, ce qui est irréductible à la vie, irréductible dans le sens qui est au-delà. Il peut exister un être qui ne soit pas vivant. Il peut exister un être qui transcende tout ce que je vois et je constate. Tandis que la vie implique toujours l'immanence, en premier lieu. Alors, vous prenez par le point de vue de l'extrême, voyez, la lettre encyclique du pape, l'enseignement de l'Église actuelle. Ça, c'est en tant que chrétien. En tant que chrétien, lisez, relisez l'encyclique du pape, dernier enseignement du pape pour nous, qui montre que seule une philosophie qui atteint l'être, qui découvre l'existence de Dieu, peut être au service de la foi pour une théologie. Donc, si la foi peut se servir de cette philosophie, ça prouve qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a quelque chose de commun entre les deux, analogiquement. Autrement, on ne pourrait pas s'en servir. Pour se servir de quelque chose, il faut qu'il y ait un contact réel, profond, vrai. Et si la coopération n'est pas possible, ça prouve que justement, il n'y a pas de rencontre entre les deux. Et s'il n'y a pas de rencontre entre les deux, il y a nécessairement, tôt ou tard, une opposition. Je ne peux plus comprendre que mon intelligence, dans sa recherche de la vérité, est soumise à Dieu, au même Dieu que le Dieu qui me révèle ce qu'il est. Le Dieu de la foi, le Dieu de la révélation. Alors, le primat du cogito conduit immédiatement à la séparation entre foi et philosophie, puisque dans le cogito, je demeure en moi, et je demeure toujours en moi. La foi implique nécessaire, implique tout de suite un dépassement de l'intelligence par l'amour et grâce à l'amour. J'atteins une réalité qui n'est pas évidente pour moi. Et je l'atteins grâce à l'amour surnaturel qui me pousse à aller jusqu'au bout quant à mon intelligence et à accepter de tout reprendre dans une nouvelle lumière qui est celle de la foi. Et je reprends tout à partir de ce premier amour qui me pousse à accepter ce que Dieu me dit, Dieu qui est l'auteur même de ma vie intellectuelle, qui est le père de ma vie intellectuelle. Et c'est pour ça que ce n'est pas absurde. Si Dieu était un inconnu complet, la seule chose que je peux connaître, c'est mon cogito. Dieu est un inconnu complet. C'est une imprudence folle de me livrer à cet inconnu complet, au point de vue intellectuel. Il faut que je puisse atteindre que Dieu est père de mon intelligence pour que je puisse avoir cette confiance totale qui me permet de dépasser ce qui m'est comme naturel. Et je le fais par l'amour, dans la foi. Et donc le primat du cogito me sépare de l'auteur même de ma vie intellectuelle et fait que je ne peux pas savoir qui il est. Et donc l'acte de foi devient irrationnel. Devient impossible. Et ceci philosophiquement, et au plan purement philosophique. Le philosophe, la conscience que j'ai de ma vie intellectuelle et la grandeur de cette vie intellectuelle à la recherche de la vérité m'empêche de me livrer ma vie intellectuelle à quelqu'un qui me dépasse complètement et que j'ignore totalement. Surtout que j'ignore totalement. Quelqu'un qui me dépasse, je peux me livrer si je sais qui il est. Je sais qui il est, je sais qu'il est Dieu, qu'il est père de mon intelligence. Alors, au point de départ, je ne le sais pas. Nous avons tous été croyants avant de faire de la métaphysique. Du moins tous, beaucoup d'entre nous, pas nécessairement tous, mais... Et nous avons cru, tout simplement, grâce à l'autorité familiale, grâce aux autorités tout proches de nous. C'est comme ça que nous avons commencé à croire. Mais nous savions d'avance, au moins ceux qui exerçaient sur nous cette autorité, que l'intelligence, en croyant à Dieu qui parle, ne se livre pas à un inconnu. On peut alors se poser la question, le jugement d'existence est-il nécessaire à cette coopération? Oui, le Saint-Père le dit très nettement dans son encyclique, pas de coopération sans ça. Il n'y au point de vue de l'intelligence, point de vue donc au point de vue de mon intelligence humaine, pour coopérer, il faut un contact. Je ne peux pas coopérer avec quelqu'un qui m'est totalement inconnu. C'est contraire à la prudence, c'est contraire à l'intelligence. Si au contraire, il y a un point de contact, quel est le point de contact qui existe entre Dieu et mon intelligence ? C'est ce qui est en tant qu'être. Puisque l'acte créateur de Dieu, nous aurons l'occasion de le voir au plan philosophique, touche l'être. Et non pas la forme. Ma manière d'être, ma forme, ma nature humaine n'a pas de contact immédiat avec Dieu. Avec la nature de Dieu, avec ce qu'est Dieu. On passe du fini à l'infini. Il n'y a pas de contact direct, immédiat. Le seul contact direct et immédiat, c'est l'être. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir coopération. Vous ne pouvez pas coopérer avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est coopérer ? C'est la coopération est humaine quand on trouve quelque chose de commun au point de vue de la finalité. S'il n'y a pas quelque chose de commun du côté de la finalité, vous ne pouvez pas coopérer. L'un va à droite, l'autre va à gauche, et puis ça se tire. Toujours. En plus. Je crois que c'est important, ça, c'est très important de réfléchir là-dessus et de découvrir progressivement que c'est vrai, le seul contact vrai, immédiat avec Dieu, c'est l'être. Immédiate, comprenons bien. Contact réel. Je ne touche pas Dieu, mais je touche ce qui est propre et fait de la création, donc de l'acte, un acte créateur qui est un acte de Dieu et immédiat. Personne ne peut remplacer Dieu dans la création. C'est pour ça que c'est si important de voir la création, oui. Parce qu'au fond, au point de vue philosophique, c'est le problème de la création qui va montrer le fondement. Tant que nous n'avons pas découvert ce que c'est que vraiment la création, on croit, on suppose. Et c'est vrai, il faut accepter au point de départ de coopérer, puis petit à petit. Mais on sait que ça existe, c'est déjà beaucoup. Deuxième question. Pour nous, Nord-Américains, il me semble que c'est la philosophie pragmatiste qui est l'erreur à éviter. Ai-je raison de le croire ? Cette philosophie est-elle en lien avec Descartes, Hegel ou Occam. C'est très vrai. Si on prend le pragmatisme comme étant la seule philosophie possible, oui, il y a un point de contact, c'est déjà plus facile. Notre philosophie réaliste commence par une philosophie pratique. Alors, on peut, au niveau pratique, voir qu'une philosophie pratique, si elle découvre la finalité humaine, si elle cherche la finalité humaine, va tout de suite montrer que le pragmatisme, qui est de fait ne chercher que l'activité humaine comme activité humaine, de finaliser notre vie en raison de cette activité humaine, et que on ne voit que cela. Cette philosophie pragmatique, elle ne dépasse pas l'homme. Elle reste enfermée sur l'homme, et ordinairement c'est l'efficacité. Parce que la morale s'ouvre tout de suite vers quelque chose de plus grand que l'homme, le bien. Tandis qu'au contraire, l'efficacité regarde ce que l'homme fait. Et donc c'est l'homme qui est encore à la mesure. Et donc je ne dépasse pas l'homme. Le pragmatisme comme tel demande d'être dépassé par une vraie philosophie éthique. Oui. Et une vraie philosophie éthique va pouvoir être vraiment pleinement une philosophie morale grâce à la métaphysique. Donc grâce à la philosophie de l'être et grâce à l'expérience de ce qui est. Vous voyez, le combat est moins direct, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, le combat le plus direct pour nous, qu'il s'agisse de l'Europe ou de l'Amérique, le combat le plus direct pour nous, c'est chercher qu'est-ce qui est au point de départ de ma philosophie. Alors, est-ce que c'est mon cogito? Ou est-ce que c'est le jugement d'existence? C'est ça que je regarde en premier lieu. Il est évident que le pragmatisme nie le jugement d'existence comme point de départ de sa philosophie. Et que le pragmatisme s'enferme tout simplement dans le cogito. Le cogito où je fais, je réalise, j'agis, c'est toujours le cogito, dans ses modalités différentes. Parce que je peux être l'homme travaillant, l'homme réfléchissant, c'est toujours le cogito, c'est toujours moi. Cogito ergo sum, c'est toujours le sujet humain qui est premier, c'est toujours la subjectivité qui est première. Dans le pragmatisme, la subjectivité est première. Donc, évidemment, si je dis que le point de départ de ma philosophie, ce n'est pas le cogito, mais ce qui est, je montre tout de suite que le pragmatisme ne peut pas être ma philosophie. Parce que dans le pragmatisme, c'est je m'enferme dans ce que je fais, dans ce que j'agis, dans ce qui vient de moi. Et c'est moi qui suis en premier lieu. Donc, je crois que c'est vraiment ce point de vue-là qui est premier. Ensuite, on verra toutes les conséquences. Et parmi les conséquences, il y a évidemment ce fait qu'une philosophie ne peut pas être pragmatiste. Elle ne peut pas s'enfermer dans le pragmatisme. Elle demande de se dépasser, de dépasser ce que je fais. Parce que ce que je fais n'est pas tout. Si je m'enferme dans ce que je fais, je ne peux pas connaître mon voisin. Parce que ce que je fais, ce n'est pas mon voisin. Je ne fais pas mon voisin. Vous voyez, je cherche éperdument l'autre. Et je ne trouverai jamais. Je ne pourrai jamais trouver l'autre. Pour trouver l'autre, il faut se dépasser. Tant que vous ne vous dépassez pas, vous ne pouvez pas trouver l'autre. À quel moment premier vous vous dépassez? Quand vous posez le jugement d'existence. Le jugement d'existence implique un dépassement. Ceci est. Quand je dis ceci est, ceci, ce n'est pas moi. C'est l'autre. Il est. Et c'est lui que je regarde en premier lieu. Je ne le regarde pas à travers mon cogito, je le regarde directement. tu as un contact direct. Alors évidemment, ils diront ça, c'est naïf, parce que vous faites appel à vos sens. Oui, c'est naïf, non, c'est naturel. Alors si on identifie naïf et naturel, est-ce qu'au fond, votre âme, est-ce que c'est vous qui l'avez faite? Votre corps, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Donc vous acceptez que votre corps existe. Vous découvrez votre âme. C'est quelque chose de naturel. Alors est-ce que l'artificiel, ce qui vient de moi, ce que je fais ou qu'un autre a fait, est avant le naturel? Oui. C'est évident que poser le jugement d'existence en premier lieu implique toutes ces distinctions et toute cette priorité de la nature sur ce qui est artificiel, ce qui est second. Ça implique ça. Alors je comprends que ce n'est pas commode du tout. Alors c'est intéressant, vous voyez, et ça, je suis tout à fait d'accord que c'est très bien de poser justement les difficultés différentes entre les diverses civilisations. Je suis parti de l'Europe parce que, de fait, toute autre philosophie occidentale est partie de l'Europe. J'aurais pu partir de l'Inde. Non. Et dans l'Inde, j'aurais vu la même chose. La seule différence, c'est que l'Inde a toujours maintenu un contact avec le religieux. Tandis que l'Europe ne l'a pas maintenu. Donc l'Europe a été plus loin dans le point de vue de la séparation entre le naturel et ce qui vient de l'homme. Puisqu'au fond, même l'aspect religieux disparaît, étant donné que le cogito ne fait pas de moi un religieux. Parce que je ne m'adore pas moi-même. Et je ne peux pas m'adorer moi-même. Mais si je mets le cogito au-dessus de tout, je pourrais dire au fond, je suis le seul idole respectable. Et je m'adore. Il y a ça dans la primauté du cogito. À ce point de vue-là, c'est important de voir qu'au fond, le cogito, dès que je le prends comme point de départ et comme terme, je réduis le religieux à moi-même. Et donc, je nie toute attitude de transcendance. Donc, je reviens un instant sur ce que nous avions vu la dernière fois, puis nous continuons. Quand je regarde, et je prends l'Europe parce que l'Europe a été de fait la source, pas parce que je suis européen que je dis ça, pas du tout. Je regarde objectivement la source de la philosophie pour nous. C'est la Grèce. Je n'ai plus ce livre qui a été fait par Merleau-Ponty et qui est intéressant. Je l'ai prêté, mais il n'est pas revenu. Et je l'ai prêté pour quelqu'un qui partait pour l'Afrique et puis il n'est pas revenu. Alors, je ne le cherche plus, parce que je crois que... Mais autrement, je l'aurais apporté. Parce que je l'avais reçu au seul choix pour en faire la recension. Et on m'avait demandé d'en faire la recension. Alors j'avais le livre, et j'avais gardé parce que je trouvais que c'était intéressant à montrer à ceux qui commencent, quoi. L'Olympe philosophique. L'Olympe philosophique. Merleau-Ponty. Point de départ de la philosophie. Alors c'est intéressant de voir cela. De voir ce devenir philosophique. Si j'ose dire. Ce devenir de la recherche philosophique. Puisqu'on est à préciser le point de départ. Parce qu'on accepte qu'il y a une recherche philosophique. Parce que si vous n'acceptez pas qu'il y a de recherche philosophique, d'une certaine manière, il n'y a pas de point de départ. Accepter le point de départ d'une philosophie, c'est accepter qu'il y a une recherche philosophique. C'est-à-dire que le petit enfant qui vient de naître, vous ne le considérez pas comme un philosophe. Si vous considérez le petit enfant comme un philosophe et comme un petit dieu, tout ce qu'il dit, ça devrait être marqué. Marie aurait pu, dans un carnet de notes maternelles, montrer les premières paroles de Jésus. Elle ne l'a pas fait. Pas parce qu'elle était paresseuse, non, pas du tout. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne devait pas le faire. C'était la volonté de Dieu sur elle. Reste cachée. Mais vous voyez de temps en temps, parce que quand il y a courant de l'Orient, facilement considère que l'enfant, dans son innocence, est comme un dieu. Et vous pouvez voir certains foyers non chrétiens dans les traditions asiatiques qui sont comme ça. Je connaissais un foyer japonais et le père, qui était un artiste, considérait que sa petite fille, tout ce qu'elle disait, c'était divin. C'était très curieux. Il y avait une espèce de respect très beau, mais pas toujours très juste vis-à-vis de l'enfant. Donc, on pourrait très bien considérer, vous voyez, si on était néo-platonicien d'une façon absolue, je dirais, il n'y a pas de recherche philosophique. On reçoit. Aujourd'hui, je ne suis pas en état de grâce. Donc, je ne reçois rien. Le robinet est fermé. Je ne peux rien vous dire. Si au contraire, je considère qu'il y a une recherche philosophique, je peux essayer de comprendre quel est le point de départ de cette philosophie. Donc, vous voyez, rechercher le point de départ de la philosophie, c'est admettre, reconnaître qu'il y a une recherche philosophique. Je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, je vous le dis maintenant. Et c'est important dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce que Merleau-Ponty a tellement mis en lumière. Il y a une recherche philosophique. S'il y a une recherche philosophique, l'interrogation joue un rôle capital, on y reviendra. Tandis qu'il n'y a pas de recherche philosophique, on reçoit tout de Dieu. Et parce qu'il y a une recherche philosophique, il y a un certain développement théologique de la foi. Puisque la foi ne supprime pas la manière propre de connaître. L'homme est un chercheur. Au point de vue intellectuel, au point de vue spirituel. Et ça, c'est l'évidence. Le petit enfant, il a tout à découvrir. Et il découvre tout progressivement, tant du côté de l'intelligence que du côté de l'amour. Et il y a des barrages, quelquefois. Et des barrages intellectuels et des barrages affectifs. Et ça a de nombreuses conséquences ensuite. Et on comprend qu'on essaie de découvrir à quel moment ces barrages ont eu lieu. Quelle a été la nature de ce barrage. C'est toute la psychologie archéologique, ça, qui essaie de découvrir ça. Mais vous ne le savez jamais, hein, de façon absolue. Jamais. Parce que vous ne pouvez pas revivre ce que vous avez vécu. Vous ne pouvez pas le revivre de la même façon. Vous le revivez autrement, et vous le revivez dans un autre contexte. Or, plus on est au commencement, au début, plus on est imparfait, plus le conditionnement joue un rôle important. Pour l'enfant, le conditionnement joue un rôle très important. D'où l'importance de l'exemple. L'exemplarité, c'est la finalité dans l'ordre du conditionnement. Dans l'ordre du conditionnement, vous avez l'exemplarité. L'enfant, tout ce que dit Aristote sur l'enfant imite. L'enfant a besoin de ça. Et alors, chez les stoïciens, ça devient majeur, ça efface même le point de vue de la finalité. C'est l'exemplarité qui prend toute la place. Mais dans l'ordre du développement, c'est nécessaire, c'est important. Supprimer délibérément toute causalité exemplaire dans l'ordre du devenir, c'est une erreur. Supprimer automatiquement toute exemplarité dans l'ordre du développement, c'est une erreur. C'est ce qu'a fait la scolastique. Elle a supprimé ça. Elle a eu tellement peur de Platon qu'on a supprimé la causalité exemplaire. On comprend très bien, mais il ne faut jamais faire que l'adversaire, on en ait tellement peur qu'on le supprime. L'adversaire est adversaire parce que, de fait, il a mis trop en lumière quelque chose qui n'est qu'un élément, qui n'est pas une finalité. Alors, il faut découvrir ça. Alors, c'est important, ça. Dans ce développement philosophique, qu'est-ce qui est premier? Quand je regarde l'Europe, je vois l'Europe et tout ce qui suit après de l'Europe. Hein, je m'enferme pas dans l'Europe. Mais tout ce qui suit, quand je regarde cela, quand je regarde l'Inde, je ne l'ai pas fait, moi, personnellement. J'avais un ami qui l'a fait. Et on était suffisamment proches et suffisamment amis pour voir la même chose. C'était le même phénomène. Seulement, l'enveloppe, le fait que l'Inde n'ait pas connu le grand tournant de la révélation chrétienne, n'est pas connu directement, en premier lieu, le point de vue religieux a continué. Pour le chrétien, l'aspect religieux est dépassé par le point de vue des vertus théologales. Les vertus théologales sont au-delà du point de vue religieux. Aimer l'amitié avec Dieu. Donc c'est l'aspect mystique qui remplace l'aspect religieux. Et c'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui croit en premier lieu. Fondamentalement, c'est celui qui adore. Mais la foi est plus. C'est vrai. Et la foi transforme l'adoration en adoration, en esprit, en vérité. Donc, au point de départ de cette recherche philosophique, quels sont les points de départ? C'est l'intérêt de l'étude de la philosophie grecque. Quels sont ses points de départ? Ces points de départ sont divers. Il y a l'expérience du devenir, il y a l'inspiration. En gros, je peux dire les deux. Héraclite et Parménide. Héraclite et Parménide. Parménide, c'est l'inspiration. Héraclite, c'est l'expérience. Et au fond, on voit tout le temps un peu les deux. Et l'inspiration, chez Platon, c'est l'inspiration. Et puis il y a l'expérience, Aristote. Pour trouver quelque chose d'analogue. L'inspiration est une expérience intérieure. Et purement intérieure. Quand j'ai une inspiration, mon voisin ne l'a pas nécessairement. Quand je fais une expérience, je peux dire à mon voisin, fais la même expérience, tu verras. Et on peut éduquer quand l'expérience est première, quand l'inspiration est première, on n'éduque pas. On est autodidacte. Au fond, il y a deux philosophies. Une philosophie il se laisse conduire par le réel et une philosophie autodidacte qui relève de l'inspiration. En gros, c'est très vrai ça. aussi bien pour l'Inde que pour l'Europe. Il faudrait voir pour la Chine. Quel point de départ. Mais au fond, la Chine est restée elle aussi très liée à l'aspect religieux et à l'aspect artistique. De sorte que c'est plus l'inspiration, elle aussi. C'est la Grèce qui a, elle, découvert beaucoup plus l'expérience. Et par le fait même, a découvert beaucoup mieux le lien entre l'âme spirituelle et le corps. Je crois que seule la Grèce a découvert vraiment ça. Tous les autres pays se sont trouvés un peu devant une dualité et ont maintenu une certaine dualité. L'expérience, au contraire, nous les deux, parce que l'expérience est le fruit de ma sensibilité, donc de mon corps et de mon âme. C'est les deux. Dans toute expérience, les deux sont présents. Tandis que dans l'inspiration, c'est uniquement le point de vue spirituel. Or, de fait, si vous maintenez l'expérience en premier lieu, vous chercherez qu'est-ce qui caractérise l'expérience la plus expérience. C'est-à-dire l'expérience qui me met le plus en contact avec l'autre. L'expérience qui me met le plus en contact avec quelque chose qui n'est pas moi. C'est ça, c'est le caractère propre de l'expérience. C'est que je suis en contact avec quelque chose qui n'est pas moi, l'autre. Tandis que dans l'inspiration, je ne suis pas en contact avec quelque chose qui est extérieur à moi. Je demeure en moi. Alors vous voyez bien, vous voyez là, que mettre le cogito en premier lieu, ou ceci est en premier lieu, en réalité, est au point de départ de deux philosophies tout autres. Une philosophie qui met en premier lieu le dialogue avec l'autre. Une philosophie qui met en premier lieu la réflexion sur quelque chose qui est au plus intime de moi, l'inspiration. Et je crois, vous voyez, c'est important de voir que ce que nous disions la dernière fois, ce que nous disons maintenant, se rejoignent. Donc, c'est bien ces deux aspects que je dois regarder tout le temps. Et je dois les regarder tout le temps. Parce que la séduction de l'inspiration est tellement grande que même si je suis convaincu que le primat, c'est l'expérience, je me laisserai assez vite tenter vers 45 ans. C'est très vrai que jusque 45 ans, on accepte que l'autre nous instruit. Et la grande crise de 40 ans, c'est de continuer d'accepter que l'autre m'instruit. On est suffisamment éduqué pour s'envoler du nid et de tout trouver en nous-mêmes. Et de considérer que ce qui est important, c'est d'être autodidacte, c'est de tout découvrir soi-même. Et que c'est la seule façon d'avancer. C'est ça la grande crise de 40 ans. Oui, c'est l'autonomie 40-45 ans. Et c'est pour ça qu'Aristote dit c'est l'âge politique. Parce que de nouveau, on accepte l'autre. Et on coopère avec l'autre. L'enfant coopère avec l'autre, il coopère avec sa mère, il coopère avec son père, il coopère avec ses frères, très facilement. Mais dès qu'il grandit et qu'il arrive à un certain âge d'autonomie, alors le problème, vous voyez, de l'expérience et de l'inspiration se repose d'une façon très profonde vers 35. C'était le gros problème de Platon. Et c'était le grand problème d'Aristote. Et c'était le grand problème de Plotin, qui a voulu faire la synthèse. Plotin fait la synthèse Platon-Aristote, en mettant Aristote à l'école de Platon. L'inverse du cheminement d'Aristote. Et Plotin met les deux expériences, l'expérience interne, l'expérience externe. Devant ces deux expériences, Plotin choisit la primauté de l'expérience interne. Et ceux qui redécouvrent Aristote après Plotin, Thomas d'Aquin, font l'inverse. Au plan philosophique, mettre que l'expérience interne doit être toujours vérifiée par l'expérience externe. Parce que c'est la seule qui me fait toucher l'autre dans son être. Quand vous mettez l'expérience en premier lieu, vous essayez de trouver la ratio propre de l'expérience. Qu'est-ce qui caractérise l'expérience à la différence de l'inspiration? J'avais fait dans le temps à Fribourg toute une année là-dessus, un cours par semaine, expérience-inspiration. Et ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui caractérise l'expérience? Qu'est-ce qui fait que l'expérience est expérience? Qu'est-ce qui fait que l'inspiration est inspiration? Oui. Il y a là, je crois, un chantier, ça vaut la peine. Un chantier ouvert, auquel constamment vous mettrez des notes là-dessus. Pour arriver petit à petit vous-même à découvrir cela. Parce que c'est capital. Et quand vous lisez un philosophe, essayez de voir si ce philosophe considère l'expérience au sens fort comme première ou l'inspiration. C'est très important. C'est vraiment là le partage. Or, qu'est-ce qui caractérise l'expérience comme expérience? C'est d'atteindre l'autre comme autre. Qu'est-ce qui caractérise l'inspiration? C'est de découvrir ce qui est le plus moi-même et le plus vital en moi. Et donc, ce qui caractérise l'expérience, c'est d'atteindre l'autre dans son exister, dans son autonomie d'autre. C'est donc bien le jugement d'existence. Le jugement d'existence, c'est le cœur de l'expérience externe. C'est l'âme de l'expérience externe. C'est ce qui caractérise l'expérience externe comme expérience externe. C'est que j'atteins l'autre dans son être. Ceci est. Puisque c'est dans son être qu'il est autre que moi. C'est pas dans sa forme. La forme, peut-être semblable, peut-être amie. On peut se mettre tout en commun. Tandis que dans son être, il y a quelque chose d'irréductible. Vous n'arriverez jamais à assimiler l'autre pleinement dans son être. Il faudrait le manger. Hein. Et en le mangeant, vous ne mangez pas son être. Vous mangez sa chair. Mais vous ne mangez pas son être. L'être, ça ne se mange pas. Ça se respecte. On le saisit. Non pas dans l'appréhension, mais dans le jugement. L'être, vous le saisissez dans le jugement. Ceci est. Et pas dans l'appréhension. Tandis que l'inspiration, ah, c'est l'inverse. C'est moi qui se prolonge. C'est moi qui se jette sur l'autre et qui le transforme. C'est moi qui modifie tout et de moi. Et là, je ne distingue plus être et forme, puisque ça, c'est tout ce que j'absorbe, tout ce qui vient de moi. Donc, voyez bien comment, au cœur d'une philosophie qui repose sur l'expérience, c'est le jugement d'existence.